Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour Histoire de France et d'ailleurs en compagnie de René-Joseph Irmana. Aujourd'hui, il va nous parler de Marie Bonaparte. Donc, on va retrouver tout de suite René-Joseph pour cette émission Histoire de France et d'ailleurs, et qui nous parle aujourd'hui de Marie Bonaparte. René-Joseph, bonjour.
Bonjour. Donc, je vais vous parler, comme indiqué, de Marie Bonaparte. Donc, son nom est connu. Elle s'est faite donc un prénom, suivant l'expression. Elle est peut-être assez peu connue dans le grand public. Et donc, qui est-elle? Elle s'est elle-même intitulée la dernière des Bonaparte. C'est peut-être une expression un peu orgueilleuse, je ne sais. Elle va s'illustrer, mais dans un domaine où peut-être on n'attendrait pas la famille Bonaparte, dans le domaine de la psychanalyse naissante. Elle va être une des pionnières, après Freud, donc de la psychanalyse. Elle va être aussi une mécène et de cette nouvelle science, entre guillemets, ou technique, ou voilà. Et elle va être aussi probablement la première psychanalyste, ou une des premières. Alors, une pionnière en France, hein, parce que la psychanalyse de Freud s'était déjà développée en Angleterre, etc. On va y revenir. Et donc, qui est-elle? Alors, un peu de généalogie. Elle est l'arrière-petite nièce de Napoléon Ier. Donc, Napoléon Ier, parmi ses frères, Lucien, hein, son frère aîné. Lucien qui avait d'ailleurs eu un rôle important hein, dans les débuts du Premier Empire, tout au moins déjà dès le début du consulat. Hein. On sait que Lucien était président du conseil de mémoire des 500 et il avait aidé donc Napoléon à maîtriser disons, ce conseil des 500, toute opposition lors du coup d'état du 18 Brumaire. Voilà. Et Lucien a eu un fils, Pierre Bonaparte, lui aussi qui s'est illustré, on en reviendra, mais alors de façon tragique. Il a été deux fois meurtrier, Pierre Bonaparte, sous le Second Empire notamment. Là aussi, j'aurais pu évoquer cet épisode lors de nos chroniques de la série 2015-2016, dans l'avant-dernière, ou avant-avant-dernière, où il y a eu un cycle de 6 émissions sur le Second Empire, je n'en ai pas parlé, j'en parlerai aujourd'hui. Et donc Pierre, fils de Lucien et neveu de Napoléon Ier, a lui-même pour fils Roland Bonaparte. Roland qui épouse Marie-Félix, une richissime héritière, et ils ont pour fille Marie, donc Bonaparte, qui nous intéresse aujourd'hui, arrière donc petite-fille de Lucien et arrière-petite-nièce de Napoléon Ier. Elle naît le 2 juillet 1882 à Saint-Cloud, donc fille de Roland, je n'y reviens pas. Sa mère, Marie-Félix, est une riche héritière. Elle s'appelle de son nom patronymique Blanc. Elle est fille de François Blanc, qui est le fondateur de la Société des Bains de Mer et le patron du casino de Monte-Carlo. Donc c'est un bourdonnage de blason, si on peut dire. Les Bonaparte sont peut-être pas ruinés, mais là, ils accueillent en leur sein une, encore une fois, richissime héritière. Et elle va donc donner une fille, je l'ai dit, à Roland, ce sera Marie. Et les drames vont commencer, les tragédies dans la vie de Marie, qui vont donc sérieusement la perturber, perturber son psychisme, comme on dirait aujourd'hui. Alors, mystère, la mère de la petite fille, donc la jeune et fragile et délicate Marie-Félix, meurt peu après la naissance de sa fille. Et là, une rumeur va naître, se propager, eh bien, a-t-elle été assassinée? Il y a une hypothèse et un bruit qui court, elle aurait éventuellement été assassinée par son époux, Roland, et par la veuve de Pierre Bonaparte, la princesse Pierre, donc la belle-mère, hein, l'épouse et veuve de Pierre, donc, et la grand-mère hein, donc de l'enfant, pour justement s'accaparer sa fortune, puisque désormais l'héritière c'est Marie, la petite fille, et donc bon, le père gère l'héritage pour sa fille. Voilà. Donc est-ce vrai ou faux, ça n'a jamais été confirmé, mais elle sait, elle apprend ça, l'enfant, dans ses premières années. Et donc, elle va, dès ses premières années, ouvrir un carnet qu'elle intitulera, un journal en quelque sorte, un journal intime, qu'elle intitulera « Bêtise », entre guillemets. Et alors, c'est un petit peu comme une prise de distance entre le titre et le contenu. En réalité, ce qui sera divulgué, ce sont des problématiques, enfin des cas des sentiments, des émotions, des tourments très très sérieux, très très graves, et qui n'ont rien de bêtise et qui n'ont rien d'anodin. Voilà. Donc son éducation se fait à Saint-Cloud. Elle est née à Saint-Cloud et avenue d'Iéna, donc dans l'un ou l'autre des hôtels particuliers, la famille Bonaparte. Son père est assez indifférent, très éloigné. Roland est c'est plutôt un scientifique. Il voyage, il s'intéresse à l'anthropologie, etc. Il sera même accueilli à l'Académie des sciences. Hein, voilà. Assez indifférent, toutefois éloigné, et sa mère très froide. Sa grand-mère, je veux dire, sa mère est morte. Sa grand-mère n'est pas du tout maternelle, donc elle sera entre les mains de nourrices auxquelles elle va s'attacher. Mais ce sont des nourrices qui seront tour à tour renvoyées par la terrible grand-mère. Voilà. Donc l'enfant souffrira d'une grande solitude. L'une des nourrices, notamment une Corse, Claire Druet-Bernardini, s'était attachée. Il y avait eu un vrai attachement avec elle. C'était une espèce de mère de substitution, mais renvoyée aussi. Et alors, elle est quand même brillamment éduquée. Ce sont des préceptrices qui viennent. Elle est polyglotte, notamment elle parle anglais, allemand. Brillante éducation, donc on s'en rend. Mais il y a une autre petite contrariété, là, c'est pas un traumatisme. Elle se prépare sérieusement pour le brevet élémentaire. À l'époque, les filles ne peuvent pas se présenter au bac. Donc, c'est le brevet. Ça paraît un petit peu très populaire, quoi, mais elle a vraiment envie de passer ce diplôme, et sa grand-mère, la princesse Pierre, refuse, parce qu'elle craint qu'il y ait un échec pour des raisons, on va dire, politiques. Dès qu'à l'oral, on verra que c'est une Bonaparte. Bon, elle redoute qu'on ait affaire à un républicain, ce qui n'est pas très justifié, parce que d'autres membres de la famille Bonaparte ont passé des diplômes et n'ont pas été recalés à raison de leur nom. Bon, ça c'est un petit peu anodin. Mais il y aura là un deuxième traumatisme qui va suivre après le mystère sur la mort de sa mère. Alors, jeune fille, vers 14-15 ans, elle va nouer une idylle avec Antoine Léandri, qui est le secrétaire de son père, hein, Roland. Et là aussi, c'est un Corse. Et alors, c'est pour elle, une grande histoire d'amour. Hein. Elle a 14-15 ans, je l'ai dit. Mais l'imprudence d'écrire des lettres, et peut-être des lettres un peu chaudes, hein, parce que on verra que ses correspondances, ses écrits, autant que sa parole, c'est très cru, c'est très direct, hein, elle n'a pas de fausse pudeur. Et il s'avère que cet Antoine, qui a une trentaine d'années, est un gredin. Alors ce sera un maître chanteur, il va réclamer de l'argent pour restituer les lettres, et faire en sorte que le scandale soit étouffé. Et donc la famille va négocier. Roland est assez le père de Marie, et un petit peu avare, mais néanmoins, bon, l'honneur avant tout. Et la famille va payer 100 000 francs à l'époque, somme considérable, en échange de la restitution des lettres de la jeune fille. Et la conséquence, enfin peut-être une des causes, de l'état, disons, psychique et physiologique de Marie, à savoir sa frigidité, eh bien, ça proviendra peut-être de tous ces problèmes qu'elle a eus, notamment de cette idylle qui a été, elle y croyait totalement, et bon, c'est une terrible déception. Donc, elle va souffrir de frigidité, qui va aussi, cet état, déterminer sa vocation, on va le voir, de psychanalyste. Donc elle va toutefois se marier, puisque jeune fille de bonne famille, prestigieuse malgré tout, le nom des Bonaparte, le dernier empire s'est terminé en 1870, encore récent, et elle va avoir parmi ses prétendants un certain, alors là, illustre personnage, Georges de Grèce et du Danemark. D'abord, elle n'y tient pas, parce que ce serait un mariage arrangé. Son père le lui conseille fortement, Vous ne trouverez pas un aussi beau parti. Il est Georges de Grèce, le fils, le deuxième fils de Georges Ier de Grèce, et donc la dynastie grecque, et il a le titre de Georges de Grèce et du Danemark. En fait, la monarchie grecque, les souverains sont issus de la monarchie danoise. Hein, voilà, on pourra y revenir un jour. C'est le roi du Danemark, la famille royale danoise, qui s'est implantée en quelque sorte en Grèce. Hein, et donc, les deux monarchies sont très liées, d'où le titre de Georges de Grèce et du Danemark. Et il s'avère, lorsqu'elle le rencontre à un bal à Paris, eh bien, ses réticences tombent. Elle se rend compte que c'est un bel homme, c'est un géant blanc, il est gracieux et il lui paraît surtout bon et doux. Donc, toutes les conditions sont réunies. La première rencontre a lieu le 19 juillet 1907. Et les fiançailles sont célébrées en août 1907, avenue d'Iéna. Le mariage civil... célébré à la mairie du 16e, en septembre 1907, et le mariage religieux, alors là c'était aussi contre son gré, il voulait un mariage discret, or la famille royale grecque, puisque encore une fois elle devient belle-fille du roi de Grèce, du roi régnant, est célébrée en grande pompe, avec tout le gotha des têtes couronnées, des chefs d'État européens, le 12 septembre 1907 à Athènes. Mais bientôt, là aussi, la déception va venir et on va avoir une sorte de troisième traumatisme dans le cadre de cette union. Et alors nous allons y revenir après l'intermède. Alors l'intermède que j'ai choisi, ça sera, on anticipe un peu, hein, la rencontre entre Freud et Marie. On le verra plus tard dans notre chronique. Elle va donc rencontrer Freud et se faire analyser par Freud. Ce sera une analyse qui va durer de 1925 à 1938. Et donc ce sera la première rencontre avec le vieux savant, le vieux médecin, Monsieur Freud. Donc ils se découvrent, ils se connaissent. Et donc c'est l'objet, la teneur de notre premier intermède.